Mardi 29 novembre 2011, bienvenue à l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné à l'animation et de Jacques Gignac à la mise en onde. Cette semaine, on rencontre, en fait, on discute avec un pilier de l'art québécois, René Derouin, qui expose en ce moment ses œuvres récentes à la galerie Michel Guimont. Dominique Savoie vient nous parler de l'exposition Prince of Darkness qui est du collectif Edinburgh Printmakers qui est présentée à Engram. Également, on rencontre Catherine Blanchet et Paul Béliveau pour discuter de leur exposition Kaléidoscopie, les frissons du réel qui est présentée à la galerie Zara. Comme à l'habitude, on discute avec Raymond Poirier qui nous fait sa revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Une idée, une piste, voilà, un indice.
Si on parlait de la manif d'art, le lieu a été confirmé. C'est une bonne nouvelle à mon sens.
Oui, je crois que je connais un peu ta nouvelle et je crois que c'en est une, effectivement. Également, Simon Roy est avec nous pour nous proposer ses suggestions en audio. Bonjour Simon. Oh, Simon n'est pas là pour l'instant. Écoute, Raymond, peux-tu nous faire ta revue de presse dès maintenant?
Ben oui, pourquoi pas, on peut se lancer illico. On crée
un sujet. On va sujet par sujet.
OK, ben on va se garder une petite gêne pour la grosse nouvelle. Je vais te mentionner au passage, hier, il y avait l'activité autour des prix de la culture, des arts et de la culture à la Ville de Québec. On avait mentionné quelques nominés, bien entendu. Et de ces nominés, on a été chercher des lauréats hier. Alors, en art visuel, c'est Cynthia Dina Mitchell qui a été récompensée pour Saloon Story Part 3. C'est Caroline Gagné également qui a saisi le jury avec son installation sonore Cargo. On se rappelle c'est cette espèce de simulateur de bateau qu'il y avait à l'œil de poisson pendant le dernier mois multi.
Avec une projection.
Exactement. Donc, c'est assez intéressant comme exposition. Donc, le jury a reconnu ça. Et pour ce qui est du prix reconnaissance, donc il souligne une carrière d'exception. Eh bien, le prix a été remis à Lucienne Cornet. Et pour l'anecdotique, par contre, dans le soleil, elle dit, regardez, si vous croyez que c'est synonyme d'une mise à la retraite, détrompez-vous. Elle a 74 ans et elle convient de continuer à produire et à profiter, bien entendu, positivement de cette reconnaissance qu'elle a eue. Alors, un petit clin d'œil, on reviendra avec la suite.
Ben oui, parce qu'on est rejoint en ce moment par Simon Roy. Bonjour, Simon.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien.
Malgré la pluie torrentielle qui s'est abattue sur Québec, ton moral.
Tant que c'est pas de la neige, moi, il n'y a aucun problème.
C'est vrai, on est chanceux, hein, cette année. C'est assez retardé.
C'est ça, j'ai trouvé ta bonne musique pour les auditeurs cette semaine. J'ai préparé ma chronique quand même assez vite. J'ai trouvé ça ce matin assez vite, donc on va le découvrir un peu ensemble. C'est l'album s'intitule Underpass. C'est par un Américain qui vient de la ville de Cambridge, Massachusetts. Il s'agit de Spectra Sierra. C'est Devin Underwood. Donc, un artiste assez complet qui donne, bien sûr, dans la musique. C'est un photographe, puis aussi un designer graphique. Donc, j'aime toujours ça, les artistes qui touchent un peu à tout. Donc, c'est un album... Je sais pas comment le qualifier. Il y a un peu de field recording au travers de ça. C'est un album assez envoûtant. Musique ambiante, un peu. Donc, c'est ça. C'est publié sur le label Feedback Loop Label. Donc, c'est un label qui vient de Lisbonne, au Portugal. Qui donne surtout dans l'art audio, musique expérimentale et autres, beaucoup de téléchargements gratuits, mais c'est également possible d'acheter les albums, souvent des albums vraiment intéressants, avec beaucoup de bonus, donc ça vaut la peine d'acheter des albums qui sont publiés sur Feedback, Loop, Label, beaucoup de trucs intéressants.
Eh bien, mon Dieu, j'avais un chat dans la gorge, voyons, c'est pas facile, on en écoute 4 extraits.
Oui, c'est ça, le premier extrait, c'est la pièce Underpass. Ça va être suivi par Forgotten Room, ensuite de ça, c'est Unlit Pathway, puis enfin, on finit encore avec la pièce Underpass, mais cette fois-ci, remixée par Darren Harper, un artiste qui vient des Pays-Bas, donc qui a lui aussi un peu dans la musique ambiante, musique expérimentale, donc c'est comme un remix assez intéressant de la première pièce qu'on va écouter.
Excellent. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que tous les liens pour écouter les pièces seront disponibles sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com. Simon, on a l'occasion de t'écouter dimanche à Web Musique.
Oui, à compter de 20h à 21h tous les dimanches.
Et voilà, ben d'ici là, on s'en va en pause audio, on écoute Underpass sur les ondes de CKRL. Voilà, on vient d'entendre un extrait de Underpass. C'est une suggestion de Simon Roy. Et on poursuit la revue de presse avec Raymond Poirier et 13-4 Nouvelles.
Oui, et si, en fait, j'avais gardé un peu de suspense pour la nouvelle concernant la manif d'art. Et je me lance, Silico Presto, dans celle-là, fait une bonne nouvelle, comme je l'ai dit, puisque le lieu central de la manif a été dévoilé. Et on a mis de côté un peu l'expérience, bon, plus ou moins réussi, restons
avec Place Québec.
Avec Place Québec, qui n'était pas un contexte d'exposition que j'avais trouvé très agréable. Et là, dans ce cas-ci, on va plutôt aller vers un lieu qui a fait ses preuves. C'est une bonne chose, l'espace 400e. Donc, il sera le lieu central de la manif. Et pour l'avoir déjà vu, je veux dire, on a des grands espaces. C'est un lieu qui est plus accueillant, qui est probablement, à mon sens, plus réceptif.
Oui, mais aussi, il y a plusieurs salles. Oui. Je me rappelle, l'an dernier, l'exposition Relève en capitale était présentée à l'espace 400e et ça fonctionnait vraiment très bien. Mm-hmm. C'était fluide, on se promène à l'intérieur. Puis...
Donc, ça, c'est une bonne nouvelle là-dessus. Petit rappel, en fait, le thème de la manif d'art 6, ce sera Machine, donc les formes du mouvement, tel que défini par la commissaire invitée Nicole Gingras. Donc, ça s'articule autour de ce mot machine, des mouvements qui sont produits par la machine. Et évidemment, ben, ça amène aussi à des invités. Et une bonne nouvelle aussi côté invité, premier artiste qui avait été dévoilé au lancement de la prochaine saison du Musée de la Civilisation, donc le musée qui allait accueillir une exposition de Diane Landry dans le cadre de la Manif d'art. Et justement, je dis une bonne nouvelle parce que quand on parle de machine, c'est, je pense, une des artistes à laquelle rapidement on peut penser là, en termes d'artiste de la grande région de Québec. Là.
C'est effectivement une bonne nouvelle.
Alors, voilà pour la Manif d'art. On s'en va vers Montréal. Je te parle sporadiquement, Julie, de ce gala des arts visuels qui s'en vient tranquillement.
Rappelle-moi la date.
Le 13 décembre. Donc, on devrait éventuellement finir d'en parler. Et ce que je trouve rigolo, c'est que vraiment, en fait, ils vont détail par détail, élément par élément, dans leur dévoilement. En fait, ils jouent avec ce suspense. Ils moussent leur événement et on le mousse avec eux, finalement. Et là, c'est les catégories, en fait, qui ont été dévoilées. Donc, ce sera intéressant de savoir quelles catégories ont été préconisées. Je vais avec quelques exemples, notamment meilleure exposition en galerie privée. Il y aura la même catégorie en institution muséale et en centre d'artistes autogérés. Donc, on fait vraiment une division.
Ouais.
C'est une bonne idée.
C'est tellement pas le même but, de toute façon.
Et il y aura quand même meilleure exposition aussi pour des centres municipaux, centres culturels et le reste à ça aussi. Donc, encore là, un autre contexte d'exposition. Meilleure exposition en région également, qui sera mise de l'avant.
Et comment définit-on la région? Est-ce que tu
Ça, c'est pas spécifié. C'est pas spécifié, mais j'ose espérer que ça sera hors des grands centres.
Oui, c'est ça, que ça sera pas comme dans un rayon de 125 km autour de Montréal. Tout ça est en région.
Et ensuite, il y aura meilleure manifestation publique. Il y aura galériste de l'année, jeune commissaire de l'année et commissaire de l'année. Donc, encore là, on fait une division là-dessus. Blogueur de l'année. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Critique d'art et journaliste de l'année. Critique de l'année dans des médias spécialisés. Il y aura également à ça quelques hommages, donc hommage à un intervenant du milieu, un prix de la ville de Montréal, deux prix en fait de la ville de Montréal et également le prix carrière Jean-Paul Riopel. Alors c'est quand même un bel éventail de catégories. Maintenant, ce sera intéressant de voir quels seront les nominés dans ces catégories et est-ce qu'effectivement ils reflèteront la richesse de l'année artistique au Québec.
Ben, considérant que c'est un premier gala, je pense qu'on peut quand même donner une chance à l'institution de se mettre en place.
Alors ce sera à suivre en route vers le 13 décembre, donc probablement qu'on s'en reparlera d'ici là.
Oui, il y a peut-être quelques grenades d'informations qui vont sortir.
Sinon, un record qui a été battu c'est la semaine dernière, en fait, record de vente, c'est Le Mieux, qui a été vendu plus de 2 millions de dollars, en fait, pour être précis, 2 340 000 dollars, incluant les frais d'acheteur. C'est le record canadien. Avant, il était détenu par Jean-Paul Riopel. Donc, record d'un artiste canadien vendu sur le marché international, si on veut vraiment jouer avec les termes. Et l'œuvre qui a été vendue, c'est 1910 Remembered, une œuvre maîtresse de Jean-Paul Lemieux, où on le retrouve avec son costume de marin entre ses parents. Ouais. Très belle œuvre, d'ailleurs. Ah ben voilà, donc elle a une très, très grande valeur. Et on termine avec un grand débat qui est lancé à l'international par les gens du Tate à Londres, du Tate Modern. En fait, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait, par respect pour l'environnement et par souci d'économie d'argent pour les musées, baisser la température dans les galeries? Parce que présentement, ce qu'il faut savoir, c'est que la température dans les salles d'exposition, ça obéit à des règles internationales qui sont assez strictes. Et à moins de garantir donc un équilibre parfait à 21 degrés Celsius, à moins de garantir 50% d'hygrométrie, eh bien, le vaste balai des prêts entre institutions, un rapport de force qui est quand même assez délicat, ben, risque bien de se bloquer. C'est arrivé à quelques expositions, on disait, ben, regardez, non, la température, ça ne sera pas correct, ou, ah, finalement, vous la prêtez, mais on se rend compte qu'il y a trop d'humidité, on reveut notre exposition. Alors, il y a des enjeux importants là-dessus. Et l'équipe du Tate, donc, dit, ben, regardez, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de revoir les règles sans nécessairement les rendre moins strictes, mais est-ce que les œuvres ont besoin d'être gardées dans une température de 21? Est-ce qu'on pourrait baisser à 20, à 19? Est-ce qu'on pourrait revoir certains standards pour permettre au musée d'économiser dans les frais de chauffage? Il faut dire qu'en terminant, pour un musée comme la Tate, c'est quand même un enjeu majeur. Pour ceux qui ont déjà été, les espaces sont immenses. Donc, effectivement, la facture d'électricité doit être quand même aussi assez salée.
Donc, on imagine pour les autres musées également. Raymond, merci beaucoup pour cette revue de presse.
Ça fait plaisir.
Nous ici, on se revoit la semaine prochaine. On peut trouver les liens de tes articles sur l'aérospatiale.wordpress.com. Également, une balado-diffusion d'émissions, des communiqués, bref, un site web très dynamique. Mais on peut aussi t'écouter vendredi à La Vie en BD.
Oui, on va parler notamment du démon du hockey et de Zvienne.
Voilà. Donc, l'invitation est lancée de 17h30. On s'en va en pause audio. On écoute Forgotten Room et au retour, on discute avec Catherine Blanchet et Paul Béliveau. on vient d'entendre un extrait de Forgotten Room, c'est tiré de l'album Underpass de Spectra Sierra. Vous pouvez trouver le lien sur le site de l'Aérospatiale. Également, si vous vous intéressez un peu à cet album-là, ben, vous pouvez aller sur le site de l'étiquette Feedback Loop Label. Donc, une suggestion que Simon Roy nous a faite cette semaine. Donc là, on était en Europe en musique, on revient à Québec, une exposition, ma foi, fort intéressante qui a cours à la Galerie Zara depuis quoi, jeudi dernier?
Vendredi
dernier, précisément, donc qui rassemble Catherine Blanchet, bonjour.
Bonjour.
Et Paul Béliveau, bonjour.
Bonjour.
L'exposition s'appelle Kaléidoscopie, les frissons du réel. Donc, cette exposition-là, à la base, c'était une initiative de la Galerie Zara, hein, je crois, de jumeler un artiste professionnel avec une artiste de, ben,
cette fois-ci. Oui, effectivement, j'avais été approché pour travailler avec un membre de Tsara. Donc, après la sélection, c'était en décembre dernier, j'ai fait une sélection de plusieurs artistes, mais finalement, ça s'est ramené à un artiste. En fait, j'en ai choisi deux.
Un entonnoir.
Oui, bien, c'est ça. Je les ai passés plusieurs fois au peigne fin, les dossiers. Puis finalement, le dossier de Catherine revenait tout le temps. Il était toujours à côté avec quelques autres dossiers. Puis à un moment donné, après 2-3 semaines, il m'en restait deux. Donc, à l'origine, j'ai commencé à travailler avec deux artistes, avec Catherine et José Landry.
Okay.
Et puis finalement, pour toutes sortes de raisons, j'ai préféré travailler avec Catherine, toutes sortes de raisons, je ne préfère pas expliquer.
Qu'est-ce qui vous a séduit, hein, principalement, dans le travail de Catherine?
Ben, d'abord, la technique. Même si ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, déjà, son approche était très, par rapport aux autres dossiers, je trouvais que c'est un dossier qui était assez complet, qui était assez bien fait aussi, c'était bien présenté, son sujet était le fun aussi, c'était bien cerné, et je n'avais pas vu son exposition qu'elle avait faite sur la rue Saint-Joseph. Le dimanche des objets,
ouais,
c'est ça. Mais d'emblée, moi, j'étais vraiment séduit par son travail. Alors, par la suite, lorsqu'on a pu commencer le projet, ça s'est confirmé, effectivement.
Et toi, Catherine, t'as dû quand même être assez flattée d'avoir été choisie comme ça, là, parmi les dossiers?
Oh, oui, tout à fait. Là, c'est vraiment, en fait, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisie, puis aussi d'avoir l'occasion d'exposer avec Paul Béliveau. C'est quand même quelque chose qui est agréable à ajouter à son CV.
Je pense que vous avez beaucoup discuté, hein, de ce que j'avais compris. Il y avait toute la notion d'échange, de discussion, de partage.
Oui, au début, c'est vrai que c'était ça. Puis surtout que moi, j'avais comme des pistes en tête pour travailler, mais je me suis rendu compte qu'en cours de route, c'était pas une bonne approche. Et puis j'étais déjà parti dans une production particulière pour la Galerie de Sarah. Par la suite, avec Catherine a vraiment aussi, à un moment donné, ça a démarré. Là. Catherine, c'était beaucoup, je l'agaçais souvent avec ça. Je disais, Catherine, c'est trop dans ta tête. Là. Il faut, à un moment donné, aller mettre ça, pas sur papier, mais y aller, être dans l'assiette. Exactement. Puis l'urgence, le temps approchait. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, pour Catherine, ça a débloqué.
Ouais. Ça a débloqué. Catherine, d'ailleurs, tu nous présentes des mandalas à l'exposition. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce motif-là?
C'est vraiment parti d'une collection d'objets. J'avais envie de travailler avec des objets de verre. Dans mon exposition précédente, j'avais travaillé avec la céramique. Et là, ça faisait longtemps que j'avais le goût de travailler le verre. J'ai commencé par me constituer une collection d'objets, puis j'ai commencé à photographier ces objets-là sous tous les angles. Et finalement, en étudiant les objets, je me suis rendu compte qu'il y en avait certains que quand je photographiais à vol d'oiseau, donc vraiment au-dessus de l'objet, j'obtenais une forme de cercle avec des motifs divers à l'intérieur. Donc, surtout à partir des objets de verre taillé, ça m'a donné ce motif-là. Donc, j'ai eu envie de travailler avec cette particularité-là du verre, mais en dessin.
Puis, est-ce que tes compositions, parce que là, tu parlais de la forme du cercle, justement, bon, il y a des cercles dans les mandalas, bien entendu, est-ce que ce sont comme des grandes projections de ce qu'on peut voir au-dessus ou tu as recomposé plusieurs facettes des mêmes objets dans les mandalas?
À vrai dire, c'est vraiment c'est vraiment la photographie de l'objet qui a été transformée, mais qui n'a pas été recomposée. Exactement comme un kaléidoscope où la facette va se répéter. C'est vraiment le cadran original de l'objet. Puis c'est ça, tu posais la question tantôt par rapport au mandala. Pourquoi le mandala? Ben, en fait, le mandala, c'est une forme circulaire à l'intérieur d'un cadre. Puis, c'est aussi un support de méditation. Ouais. Donc, il y avait une convenance formelle, mais il y avait aussi, dans la genèse de l'œuvre, tout le travail de patience et de le travail, les longues heures acharnées au dessin. Ça a été aussi pour moi un moment où j'ai eu beaucoup de temps pour méditer.
Oui, c'est ça, ça rappelle donc le processus.
Oui, tout à fait.
Paul Béliveau, bon, l'exposition s'appelle « Kaléidoscopie ». De votre côté, comment vous le voyez? Vous voyez le kaléidoscope dans votre travail?
Il faut poser la question à Sébastien parce que le titre vient de Sébastien. Okay, parce que ça, c'est une chose qu'il faut mentionner aussi.
Oui,
parce que dans l'exposition, l'intervention de Sébastien dans le texte...
Sébastien Hudon.
Sébastien Hudon, okay. C'est ça. Ça a été quelque chose quand même d'important parce que dans notre processus de création, si chacun, on savait un peu où on allait, il a fallu quand même que Sébastien trouve un lien entre les deux approches. Et en fait, la kaléidoscopie, en fait, je te dirais que plus que dans mon cas, Sébastien parle beaucoup des craquelures, hein, l'éclatement de l'image qui est tiré de captation d'écran que je faisais sur YouTube à partir d'événements typiquement américains. Pour cette première génération dans cette série-là, c'était vraiment la capture d'écran de différents événements à partir de 1960 avec Dallas 1963.
Oui, donc on est dans les 50 dernières années.
C'est ça, exactement. Jusqu'à tout récemment, dans une série que je continue à faire, parce que cette série-là n'est pas terminée, je travaille sur Irène, l'ouragan Irène, qui est tout récent. Donc, c'est très proche. Ça peut être à court terme, à long terme aussi. Fait que c'est... Mais c'est un travail qui se fait justement par greffage, je te dirais, de différents éléments, puis d'un traitement aussi très classique.
Ouais.
Donc, c'est de la peinture à l'huile, et puis je fais vraiment craquer l'image comme si on regardait un tableau dans 100 ans.
C'est ça, parce que ça permet d'établir vraiment une distance vis-à-vis de l'événement. Là, quelque chose comme, vous parliez d'Irène, bon, c'est arrivé presque hier, mais avec la peinture à l'huile, on pourrait dire, ben.
Et le cadre de béton aussi, qui vient comme un peu englober l'image, on dirait que ça, en même temps, ça le protège. C'est comme une meurtrière, c'est comme si on était derrière un écran, derrière quelque chose qui... j'ai même l'impression que parfois l'image ne peut pas sortir. On est capté par cette image-là visuellement. Et ça nous permet de le regarder dans un autre temps aussi. Donc, le fait aussi de traiter du drame ou de la catastrophe en petit format, que j'appelle un peu pocket size painting.
Ça change quand même de vos formats.
Oui, les grands formats, effectivement. Ouais. C'est ça. On a comme un rapport avec l'objet ou avec la peinture qui est beaucoup plus personnel aussi.
Oui, il y a quelque chose d'un petit côté qu'on va associer au précieux. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, d'ailleurs, Catherine, en observant ton travail, j'avais cette idée-là aussi. Des fois, les mandalas, je me dis, mon Dieu, on dirait des pierres taillées qui réfractent la lumière. On dirait de la glace. Il y en a qui est un peu plus géométrique, qui faisait penser à des bagues. Est-ce qu'il y avait cette idée-là, justement, de...
Bien, c'est quelque chose qui est venu... Je pense qu'à la base, dans mon travail en général, la notion du précieux est quand même assez importante. Puis aussi la notion de séduction aussi. Donc, à la base, c'est des objets qui, moi, me séduisent. Puis ce qui me séduit dans l'objet, c'est ce que j'essaie un peu de mettre en image ou de mettre en forme dans l'espace. Donc... Oui, tout à fait, la notion de précieux
est vraiment présente. Ouais. D'ailleurs, bon, dans votre travail, de part et d'autre, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, comme bon, la qualité, c'est certain, vous êtes tous les deux en grande maîtrise de votre art, mais on sent que, pas la finition, mais un aspect vraiment très travaillé, j'ai la misère à exprimer ce que je veux dire.
Non, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, moi, c'était aussi le but de mon travail, de collaboration avec la galerie puis avec l'artiste que j'avais choisi. C'était, et je l'avais dit à Catherine aussi, moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive avec un produit fini, un produit professionnel.
Ouais, c'est
et
ça.
Puis, sur le plan technique, déjà, je voyais, par les dossiers que j'ai vus, je voyais dans le travail de Catherine quelqu'un qui est minutieuse. Puis je le savais aussi par l'intermédiaire de d'autres personnes qui ont été ses professeurs. Mais ce qui a été intéressant dans ce projet-là, parce que ça n'a pas été dit encore, mais on en a beaucoup parlé, c'est que Catherine, en fait, le dessin, son travail ne se destinait pas au dessin dans le projet.
Okay,
ça devait être de la sérigraphie. Au départ, plus de la sérigraphie, puis par la suite, elle a pensé à la photographie aussi. Mais le dessin est arrivé, puis j'ai posé la question, puis elle y avait pensé. Un matin, moi, je me suis levé, je me suis dit, mais le travail de Catherine, c'est en dessin que je vois ça. Puis pour ceux qui me connaissent, le dessin, moi, dans les années 80, c'était mon médium de prédilection.
Ben ouais.
Et j'en ai parlé à Catherine, puis Catherine m'a dit, mais c'est drôle, j'ai pensé à la même chose, mais...
J'aurais jamais osé.
Elle dit, c'est ça, elle dit, je sais pas comment, ben, je vais te montrer des petits trucs, Catherine, j'ai tout ce qu'il faut, les crayons, je vais appuyer, en tout cas, les papiers, travailler par projection aussi, il faut utiliser des outils qu'on a à portée de la main, projecteur numérique. D'ailleurs, Catherine travaille beaucoup avec le numérique, même si ses objets sont prêts avec un iPhone. Moi, je voulais lui passer mon 5D, puis c'était comme trop... HD pour elle, c'était comme...
C'est trop parfait.
Oui, c'est ça.
Les... Oui,
mais en même temps, ça donnait du beau grain dans le travail de Catherine. Donc, elle est partie. Elle a fait un essai sur un papier un peu plus petit que ce qu'on voit dans la galerie. Puis, elle m'envoie en email l'image. Puis moi, j'étais complètement sur le cul, excuse-moi l'expression. Mais c'était, mon Dieu, c'est donc bien beau, cette affaire-là. Puis, fait que je monte ça à ma blonde. Mais non, on va bien voir ça. Puis, une assistante aussi, puis... Là, moi, j'étais à Catherine, do it, là. Regarde, continue. Je pense qu'elle t'a pogné, t'a pogné vraiment le médium, là. Puis, mais je ne pensais pas qu'elle dessinait comme ça.
Mais c'est fou quand même, parce que vous avez parlé de sérigraphie, mais je veux dire, l'impression première avant de s'approcher, c'est que ça en est, la sérigraphie, ça, tellement c'est net, puis qu'il y a des contrastes vraiment maîtrisés.
Que... effectivement, tout le background de sérigraphie que j'ai transparaît à travers cette production-là aussi.
Ouais, c'est drôle parce que ce que tu dis, Catherine, hier, je regardais encore, parce que j'étais en train de faire de la captation vidéo, puis j'étais dans le travail de Catherine, puis je me disais, j'essaie de voir un peu comment elle a procédé, puis elle m'a expliqué un peu son approche avec un crayon gras, des fois dans les noirs-noirs, avant d'arriver avec les crayons comme 6B, 5B, 4B. Puis ça, il faut vraiment avoir fait de l'estampe pour comprendre ces choses-là. Même estomper à des endroits, puis revenir par-dessus. Il y a une façon de travailler qui est typiquement gravure. Puis les gens qui ont cette formation-là en estampe, je trouve qu'il y a un petit plus, des fois. Puis le dessin, en plus, elle rajoute le dessin.
Ouais.
Écoute, ça fait de la peinture, ça va être beau tantôt. Hein?
On a hâte de voir la suite des choses. D'ailleurs, bon, on a parlé tout à l'heure de Sébastien Hudon quand même. Il y a un petit catalogue là, qui a été lancé, la première parution de Zara.
Oui.
On est très contents. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bel objet, c'est un beau petit catalogue, il y a un excellent texte à l'intérieur
qui explique quand même bien là, vos démarches, justement, dans le cadre de la thématique.
Oui, parce que Sébastien, ça a été pour lui, à un moment donné, et Catherine n'était pas là, mais à un moment donné, j'étais avec Hélène de la Galerie de Sarah, et puis l'imprimeur, puis Sébastien, puis Catherine avait changé un petit quelque chose dans son dessin sur lequel Sébastien s'était accroché pour vraiment faire le lien sur les deux productions. Et puis, Catherine, elle avait enlevé ce petit morceau-là. Elle avait pas évolué dans son processus de création. Puis Sébastien, je me souviens, il était vraiment dans tous ses états. Parce que là, il était un peu comme
son
perdu.
Fil conducteur. Là,
absolument. Puis, mais moi, je dis à Sébastien, écoute, nous, on crée, là, on changera pas. Il faut que tu fasses comme nous autres. Il faut que tu t'adaptes. Puis, mais il a embarqué d'une manière tellement intelligente. C'est un gars qui écrit bien.
Oui,
avec une belle réflexion aussi. Et je crois qu'il a réussi à faire un beau travail.
Et d'ailleurs, il n'est pas tellement cher, hein, le catalogue. Si vous allez à la galerie Zara, c'est 5 $. Donc, c'est
ça peut être tout simplement l'impression.
Ben oui, c'est ça. C'est d'une belle qualité. Ben, Catherine Blanchet, Paul Béliveau, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc, on peut passer voir votre exposition à la galerie Zara, Kaléidoscopie, les frissons du réel. C'est présenté jusqu'au 23 décembre. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Dominique Savoie.
En collaboration avec Relève en Capital et l'Ampli de Québec, le collectif Mélogramme lance son nouveau EP, La Salle d'attente. Riche de ses expériences festives aux quatre coins du Québec et à l'international, la formation propose 4 nouveaux titres et un style redéfini, du gypsy rock à la sauce métal. Rendez-vous le mercredi 7 décembre 2011 à l'Ampli de Québec en formule 5 à 7. Entrée libre. Mélogramme, également en spectacle à tous les 3e dimanches du mois au dimanche festif de la Nicasie et le 10 décembre au festival Relève en Capitale au concert Patiné de la place d'Youville. Informations sur mélogramme.com. Dans Futur Simple, découvrez le monde de la science. Le tout vulgarisé et présenté par Valérie Levé et son équipe. Jeudi, 17h30. Seulement au 89.1. This is Tic-Tac-Toe. Les mardis soirs, écoutez sur KRL. 18h30. Découvrez les musiques et les voix qui ont fait l'âme de l'Amérique. Animé par Gilles Chaumel. L'émission de musique folk et ses légendes. Seulement au 89.1. Cultive tes goûts. Try it now. RL89-1. Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418-529-3829.
La deuxième demi-heure, la deuxième et dernière demi-heure de l'aérospatiale, toujours en compagnie de Julie Gagné à l'animation, de Jacques Gignac à la mise en onde. Mais on vient tout juste d'être rejoint par Dominique Savoie. Bonjour Dominique.
Salut.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Je vais vous dire que tu as une bronchite, donc ça se peut être des petites toux.
J'ai un peu une voix de casserole, là, fait que désolée à l'avance.
Ah, moi, j'ai une manière plus sexy de dire, c'est une voix de sirène suave.
Ah, wow.
Ouais, hein, quand
ouais,
même.
Non, c'est gagnant.
Écoute, t'es allée à Méduse cette semaine, t'es allée voir deux expositions.
Oui, en fait, ben, je suis allée voir l'expo de Engram, qui est déjà à l'affiche depuis quelques semaines. En fait, depuis
le mois d'octobre, je pense.
Non, oui, la fin octobre, donc depuis le 28 octobre. En fait, c'est Prince of Darkness. C'est Engram fonctionne beaucoup avec d'autres centres d'impression un peu partout dans le monde, beaucoup en Écosse.
Ouais.
Puis c'est justement un centre d'impression écossais d'Édimbourg qui envoie en fait des représentants, un collectif qui s'appelle Edinburgh Print Makers. Puis, ils ont construit, en fait, cette exposition-là qui est, disons, l'arrière-pensée et l'idée, en fait, des pochettes de disques des années 70, de l'époque post-psychédélique des années 70. Puis, ils s'inspirent, donc, de ce qu'on appelle, en fait, l'âge d'or de la représentation imagée de la pochette de
disques.
Ah oui,
là, il y avait des illustrations, ma foi, farfelues.
Oui, farfelues.
Imaginatives.
Très travaillées, là. Donc, ils se sont influencés de ça. En fait, quand tu rentres même dans la galerie chez Engram, la première chose que tu vois en pénétrant dans la galerie, dans le fond, dans le mur du fond, en fait, c'est un mur tapissé d'anciennes pochettes des années 70. Donc, tu as du King Crimson, du Yes, tu as du Novalis, tu vas avoir du Santana, etc. Donc, tu en as plusieurs, tu en reconnais plusieurs aussi. Puis, ben là, tout de suite, ça te met dans l'ambiance. Puis, tu as quand même une douzaine d'artistes qui ont participé au projet. Donc, l'idée, c'est de utiliser ce médium-là, qui est la pochette de disque vinyle, qui est devenu presque un artefact, en fait, là, puisqu'on en retrouve quelques-uns, mais encore aujourd'hui imprimés là, actuellement, mais c'est devenu assez une denrée rare. Et ce sont devenus des pièces de collection, en fait, ces pochettes et ces disques-là, ces albums-là. Puis, donc, l'idée est de reproduire un peu cette esthétique-là, cet esprit-là, mais avec des techniques d'impression. Donc, on retrouve la sérigraphie, la lithographie, la gravure, j'en passe peut-être quelques-unes, là, donc c'est celles qui me sont restées en tête. Puis, on garde aussi cette espèce d'ambiance-là, à la fois mythologique, post-apocalyptique, post-psychédélique,
funky, funky coloré,
vraiment,
pop, ah oui,
un peu provocante en même temps parfois, puis avec toujours le même format, donc le format carré standard du bon vieux vinyle. Donc, on nous présente une douzaine de ces œuvres pochettes-là. Puis, je dois dire que moi, j'en ai gardé en tête quelques-unes, surtout celle de Norman Shaw. En fait, l'exposition est orchestrée par trois des membres là, principaux du collectif, qui est Sarah Manning Cardwell, Norman Shaw, puis Edward Somerton. Puis d'ailleurs, les deux derniers, donc Norman Shaw puis Edward Somerton, c'est des œuvres à retenir. Là. Moi, ils ont vraiment attiré mon attention par leur complexité technique et esthétique. C'est vraiment très intéressant. Et par-dessus tout ça, en fait, quand on arrive dans l'expo, ben, le collectif a vraiment décidé d'envoyer la totale. Donc, c'est des œuvres accompagnées donc des pochettes originales, plus une ambiance sonore. Donc, une des membres du collectif a créé une espèce de trame musicale pour l'exposition. Son groupe s'appelle People Like Us. Puis, donc, tu rentres, tu as déjà une ambiance sonore, tu as une ambiance visuelle. Ouais. Puis là, tu rentres vraiment dans quelque chose là, qui est très... installatif, là.
Ben ouais. Puis, parce que moi, il n'avait pas la musique la journée.
Non, ben, je crois que ça dépend des fois. Ça dépend qui garde la galerie. Moi, quand je suis passée, la première fois, il ne l'avait pas. La deuxième fois, il l'avait.
OK.
Puis, en fait, en plus, donc pour l'idée aussi du côté pop là, de la musique, donc on offre aussi des items. Tu peux acheter des t-shirts comme si tu achetais les t-shirts de ton groupe
de
favori.
Avec les,
c'est ça, des macarons. Puis, l'espèce de coffret des œuvres, en fait, qui est comme un livre d'artiste, mais qui prend le format coffret.
Ben ouais.
Avec même un faux disque à l'intérieur, un faux vinyle, et tu retrouves en fait l'ensemble des reproductions qui ont été faites par les artistes du collectif. Donc, ça te fait un cadeau souvenir, là, quand même assez intéressant. Donc, c'est une exposition qui est assez, assez bien garnie, intéressante aussi au niveau esthétique. Moi, étonnamment, j'y suis allée avec des étudiants, puis... Ça a vraiment très bien fonctionné auprès de cette clientèle-là. J'ai allé avec des amis, même chose. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est différent de ce qu'on est habitué de voir à Engram. Puis, le fait que ça vienne d'ailleurs aussi, c'est intéressant.
Oui, c'est du côté exotique.
Exactement.
On voir,
donc, c'est jusqu'au 11 décembre à Engram, Print of Darkness. Donc,
Puis, tu es allée à Vue aussi, je crois que tu es allée faire un petit tour.
Oui, je suis allée à Vue voir, en fait, présentement, c'est l'exposition 30 Frimaire, donc 30e anniversaire de la galerie Vue Photo, donc qui existe depuis 1981. Donc, pour l'occasion, Vue propose, en fait, d'aller fouiller dans les archives des expositions qui ont eu lieu au Centre d'artistes. Et ils ont sélectionné différents artistes qui, justement, répondent bien à cette idée-là de rétrospective.
Mais
donc,
ouais.
Faire le pont entre le passé, le présent et le futur de Vue Photo, le centre d'artistes. Donc, on a des œuvres de Lise Bégin, Rodrigue Bélanger, Pierre Gauvin, Lorraine Gilbert, Nicole Jolicoeur et Paul Lacroix ensemble, puis de Michael Snow. Donc, Michael Snow, qui, moi, bien évidemment, j'ai vu Michael Snow... Je me suis dirigée directement
à Rocher.
Donc, avait participé en 82, en 84, pardon, en 84 à une exposition de Vue qui était intitulée Still Living 9x4 Acte Scène 1. Donc, ce sont une série de 10 tableaux qui sont divisés en 4, donc, et qui présentent, donc, le premier, en fait, c'est comme un peu le tableau, là, qui explique un peu le concept, et les 9 autres sont des, les 9 scènes, en fait, là, sont des natures mortes, donc, nature morte qui est un thème récurrent dans l'œuvre de Michael Snow, et qui sont, en fait, un peu l'installation de différents objets du quotidien et non, en même temps, un peu, des fois, peut-être choisi volontairement, mais qui donne une espèce de poésie en même temps d'une certaine spontanéité. Et le tout avait été originalement photographié par un Polaroid.
Ah ouais?
Donc, c'est aussi ça, l'idée de l'exposition, c'est d'interpréter les différentes techniques de photographie, donc, puisque Vue est un centre sur la photographie. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle beaucoup de photos numériques, mais il n'y a pas juste ça. Donc, ici, l'approche était... une approche très années 80, donc le Polaroid, puis ensuite des retouches donc, qu'on connaît aujourd'hui. On a par la suite, des années 90, Pierre Gauvin qui nous proposait en 95 projections à domicile. Donc, ce sont encore une fois un peu des natures mortes qui se rapportent beaucoup à notre quotidien intime. Donc, des superpositions d'images qui donnent un peu l'idée fantomatique de voir des couches successives.
Mais oui.
Puis, en fait, c'est ça. Les autres, on avance, on progresse dans l'histoire de la photo.
Okay.
On peut arriver jusqu'à Rodrigue Bélanger, en fait, un artiste de Québec, puis qui nous propose une œuvre en 4 volets qui s'appelle « L'État ». Donc, c'est une exposition qui avait eu lieu en 2010. Donc, ce sont 4 grandes reproductions photographiques en noir et blanc qui présentent, en fait, 4 tas, ouais. mais des tas de pierres, de terre, de gazon, de rouleaux de gazon, de débris métalliques en gros plan, très centré. Donc, c'est toute la qualité de la photo, du détail, donc les nouvelles technologies qui nous permettent donc ce degré, justement, de ce haut niveau de netteté, là, justement. Donc, c'est une aventure dans la recherche photographique. C'est intéressant, très varié. Et ben si on en a manqué quelques-unes dans l'histoire de vue, ben on se rattrape avec ça.
Ben voilà, c'est présenté jusqu'à quelle date? Je ne l'ai pas avec moi.
Jusqu'au 18 décembre. Donc ça vient de commencer, ça a commencé le 18. Je crois le 18 novembre, puis ça se termine le 18 décembre.
Voilà, un mois pile flush. Dominique Savoie, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
On s'en va en pause audio, on écoute Unlit Pathway. Au retour, on discute avec René Darouin. Alors, on vient d'entendre un extrait de l'album Underpass de Spectra Sierra. C'était une suggestion de Simon Roy. Vous pourrez trouver les liens pour écouter les pièces de l'émission, pour écouter l'émission en balado-diffusion ou encore pour lire les articles dont Raymond Poirier a discuté précédemment dans l'émission sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Et là, on s'en va vraiment dans un autre univers que celui de la musique. On s'en va dans celui des arts au Québec, en fait, pour discuter avec M. René Darouin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous exposez vos œuvres récentes à la galerie Michel Guimond. Ça faisait un certain temps que vous aviez exposé à Québec.
Bien, environ 10 ans, là. Les années passent vite, une décennie presque. Parce que j'avais été très occupé par des voyages, des expositions, puis ben, la fondation, les symposiums que je fais à Val-David, là. Mais j'ai exposé souvent à Québec, moi, des années 80, puis jusqu'à des années 90, au Musée national des Beaux-Arts.
Mais oui.
Alors, le temps a passé, puis quand Michel Guimond m'a invité, là, mais je trouvais que ça tombait bien, parce que j'étais en pleine réalisation dans mon atelier, là. Alors, ce n'est que des œuvres récentes. C'est des œuvres de 2011, là.
OK, donc même de la dernière année, là, précisément.
Oui, l'année qu'on vient de passer, là. Alors, c'est assez récent. Et ça comprend beaucoup d'œuvres sur papier, de collages, là, puis c'est une façon que je travaille depuis 7-8 ans, là, avec les découpages, puis beaucoup de bois relief, là, c'est ce que je fais pratique depuis tant d'années, là. Alors, c'est un peu des vues, j'ai travaillé beaucoup sur le territoire vu du haut des airs, là.
Mais ouais.
C'est près de la cartographie, mais en même temps, c'est une façon d'identifier les lieux à travers le territoire nordique, là. C'est un champ de recherche que je pratique depuis longtemps, mais ça, c'est des œuvres tout à fait récentes qui intègrent beaucoup la couleur à travers le relief, là.
Ben oui, puis des couleurs aussi, hein, qui sont quand même assez près, justement, des couleurs de la terre, des ocres.
Oui, c'est ça, oui. Mais il y a toujours un rapport dans mon œuvre avec le sud, parce que toute ma démarche est nord-sud. Alors, on voit que c'est des territoires du nord, mais on retrouve toujours des influences que j'ai là, qui viennent du Mexique, parce que j'ai séjourné longtemps là.
Oui, il y a quelque chose en fait des arts décoratifs latino-américains aussi dans le travail.
Il y a la représentation d'art comme des la graphie d'art précolombien. Là. Si on cherche un peu, on peut voir ça. Il y a comme des écritures. Hein.
Oui,
par rapport au monde amérindien aussi, évident.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose d'assez... J'oublie en fait qu'est-ce que je voulais dire.
Un travail de métissage.
Oui, effectivement, travail de métissage des influences. D'ailleurs, j'utilise le terme métissage, ça m'amène à parler du baroque. En fait, il y a beaucoup, soit des petits territoires baroques, territoires baroques. C'est quelque chose, c'est un terme qui revient assez souvent dans votre discours. Qu'est-ce que vous associez, vous?
Moi, je trouve que le baroque, c'est pas le baroque historique, là, qu'on raconte l'histoire, on parle d'un baroque. Moi, je trouve que le baroque, c'est une notion que j'ai pris beaucoup au Mexique à travers le... C'est un mélange entre l'art un peu classique et l'art amérindien qui a donné une espèce d'exubérance hein, par la couleur puis par la forme. Et moi, je voulais pas être contraint dans mon travail par un art très formaliste puis très 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 rationnel. Alors, j'ai comme baigné dans une relation avec une espèce... Il y a une grande richesse de motifs, une richesse de références à plusieurs couleurs, puis je trouve que ma position identitaire de métisse, de métissage dans mon œuvre, je trouve que le mot baroque convient bien.
Puis vous faites également...
Dans ce sens-là, je l'emploie, là. Je l'emploie pas dans le sens historique, c'est dans le sens de métissage de plusieurs cultures et de plusieurs références. Comme je dis, référence au territoire, référence à l'art précolombien, référence à la nordicité. Le mot baroque, c'est... Moi, je trouvais que c'est un beau mot. Il définit bien ce que je suis comme artiste.
D'ailleurs, vous dites, bon, on n'est pas dans le baroque historique, mais quand même, dans le baroque, il y a la fusion des arts aussi également. C'est quelque chose que j'ai beaucoup senti dans votre travail, cette idée de la peinture. Des fois, on est presque près de l'estampe. Il y a le lien aussi avec la sculpture, le collage. Donc,
oui,
ça discute tout ça, là.
Il y a vraiment un mélange de techniques, mais là, c'est dû à ma longue expérience de la gravure. Que j'ai commencé à faire, j'ai fait beaucoup de gravures qui servaient de plaques, quand j'ai mis des plaques reliefs. Puis l'idée des collages, c'est mon travail assez récent depuis 7-8 ans, là, qui vient beaucoup d'influence, c'est assez curieux, mais je travaille sur le papier, c'est des pièces uniques, et j'utilise des papiers japonais parce que j'ai étudié au Japon, mais ça fait très longtemps, puis j'ai séjourné longtemps au Mexique, et le découpage des papiers, ça vient beaucoup des cultures populaires mexicaines, parce qu'ils font le papier découpé, mais c'est comme des lors des fêtes, il y a tellement de fêtes, là, ils suspendent ça sur des cordes, là, au vent, comme dans les festivals, tout ça. Puis ça
un peu comme des farandoles de papier.
Oui, c'est une longue tradition dans l'art populaire mexicain, mais dans le fond, qui est d'origine chinoise. Oui. Alors, à quel point les cultures sont mêlées? Quand on fait des recherches un peu au Mexique, là. On se rend compte qu'il y a un mélange d'art espagnol, nécessairement d'art d'Afrique du Nord, parce qu'ils ont été colonisés par les Espagnols. Et aussi, il y a une très grande influence chinoise. Donc, c'est assez surprenant de dire ça. Là. Il y a eu beaucoup d'influence chinoise à partir du Pacifique qui ont influencé le Mexique. Alors, on est toujours en voie de métissage. Hein?
Ben oui.
C'est jamais une définition claire. L'identité québécoise, on a cru longtemps là, qu'on n'avait pas été métissé. On a été, d'après moi, profondément métissé par les Amérindiens, mais nous, on s'est métissé pour survivre dans ce territoire-ci. Et il y a eu beaucoup l'arrivée de toutes sortes de cultures au Québec, hein, qui étaient peut-être minoritaires, mais qui nous ont influencés sous toutes sortes de formes. Et le territoire nous a marqués. Alors, on est d'une culture qui n'est pas tout à fait aussi défini qu'on aurait pu le dire il y a 30-40 ans, on était des Canadiens français catholiques. C'est pas évident.
Ouais.
On est mêlés d'anglophones, de culture amérindienne, hispanophones, c'est très récent, là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup ici.
Non, ça, c'est
une culture allemande. Il y a beaucoup de cultures qui se sont mêlées au Québec, qui sont devenues des francophones.
Et
irlandais.
Oui, effectivement. Hein?
Alors, moi, c'est la notion de baroque, c'est une question de mélange de styles qui est donne une nouvelle identité. Là.
Oui, un nouveau vocabulaire aussi également.
Un nouveau vocabulaire puis qui laisse place à plusieurs types d'influences, mais qui prend forme. Et pour moi, d'arriver à ce type d'art-là, d'après moi, c'est une longue réflexion sur la migration et sur le médecin.
Et vous parliez aussi, j'ai lu dans le carton de présentation d'exposition, il y a le terme d'américanité. Est-ce que c'est un peu dans ce sens-là aussi que vous allez quand vous parlez d'américanité?
Ben, c'est évident. Moi, je suis parti à 18 ans, j'ai été formé à l'École des beaux-arts à Mexico. Là, l'américanité, c'était mon propos avant qu'on utilise le mot américanité. Parce que c'est une chose que j'ai voyagé à travers les États-Unis, puis je suis descendu sur le continent en 55. Puis j'ai voyagé ensuite, j'étais en Californie, j'étais dans l'Ouest, j'ai fait les Amériques. À travers l'Amérique, j'ai découvert quelque chose qui me touche profondément, que ce soit les États-Unis ou le Mexique ou l'Ouest canadien, la notion de territoire, et je me suis toujours défini comme un continentaliste.
Ouais.
Quand j'utilisais ça, là, 25 ans, là, 25-30 ans, continentaliste, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ça voulait dire appartenance au territoire, au continent. Comme on dit aujourd'hui, tout le monde comprend qu'on dit ben l'identité européenne.
Ouais.
On appartient à l'Europe. L'Europe, c'est un continent de culture méditerranéenne et de culture nordique. Alors, cette notion-là, ça faisait abolir les frontières pour moi. Je disais que j'appartenais au continent, puis c'était vrai parce que beaucoup d'historiens, après, ont fait des recherches, dont Gérard Bouchard en a parlé beaucoup, Yvan Lamonde en a parlé, de l'américanité, de quelle source ça vient. C'est une appartenance à l'Amérique qui est de culture française, mais qui est devenue américaine dans le sens de l'américanité.
Ouais.
Je ne vais pas dire de devenir américanité, on ne parle pas uniquement des États-Unis. Là. On parle de mélange de culture amérindienne, de toutes les autres cultures et d'appartenance à l'espace.
C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de ça dans l'américanité, notre relation au territoire, notre relation à l'espace.
Oui, chacun des Québécois a ça. Hein. Ils ont toujours une cabane dans le fond d'un bois, ils vont à la pêche, à la chasse, puis on a tendance à vouloir se conserver des territoires isolés, mais on est tellement riche, tellement chanceux d'avoir tant d'espace.
Mais oui.
Mais c'est pas. Dans la plupart des pays n'ont pas ces espaces-là. Alors, on appartient à un espace très grand, et moi, ça me rassurait de dire qu'il n'y a pas de frontières dans le continent. Il y a ma culture québécoise, mais j'ai pas de frontières entre les États-Unis et le Mexique, et le Canada. Je me promène comme les oiseaux se descendent vers le sud. J'ai toujours été comme ça. Là. J'avais un rapport plus organique à l'espace du territoire qu'à l'espace politique.
Oui, c'est ça, parce que vous parlez d'organique, d'ailleurs. Quand on observe votre travail, c'est vraiment des formes, justement, très organiques.
La force de l'eau, la force du vent. Ce que la nature fait, bien, si on regarde les oiseaux, si on regarde les grandes rivières ou le Mississippi, le Colorado, toutes les grandes rivières, là, tout l'axe nord-sud, c'est pas nécessairement un axe, aujourd'hui, quand on parle de libre-échange, c'est le nord-sud, c'est naturel au continent.
Ouais.
C'est naturel au continent. Et les classes populaires au Québec, dans les années 40 et 50, ils allaient tout le temps vers le sud. Ils allaient en Floride, aux États-Unis, en Atlantique-Cité, puis à Roulant-Champ. C'était normal. Et il y avait une certaine élite dans les années 50 au Québec qui préconisait autre chose, hein, qui préconisait le retour à la France, puis notre appartenance à la France, mais c'était une espèce de nostalgie de l'histoire, parce que le milieu populaire, le milieu ouvrier, l'appartenance à l'Amérique a toujours été d'une évidence.
Ouais.
Mais c'est une évidence, parce que ces gens-là n'avaient pas le choix de partir vers là. Ils ne rêvaient pas de nostalgie. Et moi, je suis né, j'ai été élevé dans un milieu ouvrier sur le bord du fleuve, là, et à la longue pointe. Et j'avais cette connaissance-là que mes grands-parents appartenaient à ce pays-là depuis 400 ans, parce que ma famille habite le Québec depuis 1630. Là. Je trouvais que la culture politique niait ces valeurs-là sur l'américanité. Mais c'était comme une intuition que j'avais, hein.
Mais oui.
Il y a des historiens qui en auront parlé, qui ont expliqué, disant que, dans le fond, l'américanité, ça vient beaucoup plus des classes populaires que de l'élite.
Ouais.
C'est une notion qui, c'est une notion d'appartenance qui est plus, qui est plus populaire.
Eh bien, René Darouin, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour l'entrevue.
Ben, vous m'avez fait parler beaucoup.
Oui, effectivement, j'en suis bien contente. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et je suis très fière d'aller à Québec après 10 ans. Là,
ben oui, c'était attendu aussi.
J'ai laissé des empreintes, là, mais je trouvais que 10 ans, il fallait que j'aille à Québec. J'ai adoré la ville de Québec.
Ah oui?
La fin de semaine, j'ai trouvé la ville de Québec tellement belle. Là. J'ai voyagé beaucoup, moi, mais c'est vraiment une des plus grandes, plus belles villes.
Ah oui, ben soyons-en fiers.
Ah oui, c'est incroyable la beauté de Québec actuellement.
Ben merci beaucoup. Puis merci. Je relance l'invitation à aller voir vos œuvres récentes à la galerie Michel Guimont. C'est présenté jusqu'au 11 décembre. On s'en va en pause audio. On écoute Underpass, le remix de Darren Harper sur les ondes de CKRL. C'était un tout petit extrait, puisque l'émission tire déjà à sa fin. On a entendu la pièce Underpass, le remix de Darren Harper. Je répète, la suggestion de Simon Roy cette semaine, c'était l'album Underpass de Spectra Sierra. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de l'aérospatiale.wordpress.com. Deux petites invitations, en fait, demain à compter de 20h, c'est le vernissage de l'exposition Exploration spatiale dans le cadre de Relève en capitale qui est au Musée national des Beaux-Arts. D'ailleurs, la semaine prochaine, on discutera avec la commissaire Audrey Carreau et quelques artistes de l'exposition. Finalement, dernière suggestion, jeudi 1er décembre à 17h, c'est l'ouverture de l'exposition de l'artiste mexicain Pablo Rascado qui nous présente Fantôme en résidence à la Chambre Blanche. Sur ce, je vous laisse entre les mains de Gilles Chaumel et Folk d'Amérique, et je vous souhaite une excellente semaine à tous.